France Info.
France Info, les informés, Guillaume Caour.
Bienvenue à tous dans les informés de France Info. Il est 20h03, nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Faut-il se réjouir de la situation des STX, les chantiers navals qui restent cocorico, qui restent français? Nous allons en débattre ce soir avec les informés Pascal Blanchard, historien, Jeannie Calimi, rédactrice en chef du service politique du Parisien, Mathieu Delahousse, chef du service investigation de l'Obs, et Jérôme Doncieux, cofondateur de Relax News. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Bienvenue. Vous êtes les informés du soir. Les chantiers navals de Saint-Nazaire resteront donc français. La première décision industrielle d'Emmanuel Macron est inattendue. C'est donc une nationalisation. Hors de question de laisser aux Italiens le contrôle des chantiers navals de Saint-Nazaire. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé la nationalisation provisoire aujourd'hui.
Les chantiers de Saint-Nazaire sont un outil industriel unique en France. Nous voulons donc garantir aux salariés, mais aussi à la région, aux clients, aux sous-traitants, que les compétences exceptionnelles des chantiers navals de Saint-Nazaire en termes de construction resteront en France.
C'est une décision nationaliste, patriotique?
En tout cas, c'est pas une décision économique.
Jérôme Doncieux.
C'est pas une décision économique, c'est une décision politique où la première grande décision économique de Macron, c'est la loi travail. Et c'est le front le plus important pour lui. Et moi, je pense, ma lecture, c'est celle-là. C'est de dire que ils veulent absolument pas perturber tout le reste et donc pas mettre le feu sur le terrain social. STX, c'est une très jolie boîte, mais stratégiquement, il y a un lien très très ténu avec la partie militaire, hein, qui est l'argument qui est donné. C'est juste parce qu'ils savent produire des grands carénages. C'est le seul lien avec le militaire. Et par ailleurs, la nationalisation, je crois que c'est 76 millions d'euros, c'est-à-dire rien. Donc sur le plan, pour moi, c'est pas une décision économique, c'est un geste politique, à mon sens, pour protéger la plus importante décision économique qui est la loi travail.
Jeannie Calimi.
Oui, c'est une décision politique, à n'en pas douter, d'autant plus surprenante qu'elle provient d'un gouvernement et d'un président de la République au-dessus du gouvernement qui s'affiche comme libéral, pas que libéral, mais tout de même avant tout libéral. Mais enfin, on verra que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Oui, c'est politique parce que ça permet de satisfaire les syndicats, donc socialement c'est important. On a vu les réactions de la droite comme de la gauche. Mélenchon, Retailleau, voilà, on n'a pas encore entendu, me semble-t-il, hein, le Front National. Mais enfin, toutes les couleurs possibles de l'échiquier, la palette politique est plutôt d'accord parce que ça pourrait sauver des millions d'emplois. Non pas qu'ils étaient en difficulté, les 2000 de STX et
mais
les 7000.
Mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'enjeu?
Mais c'est aussi, je termine, c'est aussi une décision économique et industrielle, bien évidemment. Pourquoi? Parce que de toute façon, on n'aurait pas pu. Le risque qu'agite juridiquement, économiquement et également politiquement Emmanuel Macron, Bruno Le Maire et le gouvernement, c'est que Ficantieri, qui est l'actionnaire italien, ne prenait pas dans l'accord, dans la décision en tout cas du tribunal de Corée, hein, de Séoul, d'engagement de maintien des emplois en France. Et ne prenez pas d'engagement quant au transfert de technologie que pouvaient apporter les chantiers français vis-à-vis d'un des partenaires capitalistiques de Ficantieri,
qui est
chinois. Donc après, on peut dire que ce sont des éléments qui ne sont pas économiques, ils le sont.
Ça peut être aussi une décision stratégique. Elle est revendiquée comme ça, mais il y a des arguments et c'est une histoire passionnante. On raconte, nous, sur le site de l'Obs cet après-midi, quels sont les enjeux au niveau de la stratégie à long terme. La croisière, ça marche très bien, c'est un marché d'avenir. Il va y avoir énormément de bateaux qui vont se construire pour accueillir des touristes. Il n'y a aucune inquiétude pour les 10 ans qui viennent. Le carnet de commandes est plein. En revanche, la vraie problématique, c'est de savoir avec qui les chantiers de Saint-Nazaire vont devoir s'allier contre leur gré ou avec leur propre décision. Et c'est soit avec les Italiens, donc on était au départ sur le conglomérat qui avait été décrit, soit avec désormais Trieste. Et Trieste, on sait que ça peut être, et c'est ce que disent aujourd'hui certains analystes, c'est le port italien avec un faux nez éventuel de la Chine derrière. Et là, en l'occurrence, l'idée idéale était de partir sur ce qu'on avait appelé l'Airbus des mers, c'est-à-dire de faire une grande, un ensemble franco-italien pour les bateaux de croisière. On partirait avec une espèce de crainte de capitaux chinois, et on sait qu'ils ont à la fois le marché, ils ont à la fois les ports et ils ont la volonté capitalistique d'y aller. Donc, il y a un grand danger stratégique.
Ils n'ont pas le savoir-faire.
Et ils peuvent le prendre par le transfert de technologie.
Je me permettrais de dire quand même que c'est d'abord surtout un très bon coup financier pour l'État, parce que pour 80 millions d'euros, prendre... ils avaient déjà 33%. Ils vont arriver à avoir un contrôle. Donc, d'abord, ce n'est pas une nationalisation nouvelle. Ce n'est pas d'une société qui n'appartenait pas, qui est dans le giron de l'État. C'est une décision aussi qui, quelque part, d'une société qui était déjà à 33% dans le giron de l'État. Donc, quelque part, c'est un complément d'actionnariat pour prendre le contrôle de l'entreprise et prendre justement, par rapport à la stratégie futur, être tranquille par rapport à cette stratégie. Je ne trouve pas que pour 80 millions d'euros, ce soit une erreur stratégique. Si Macron était un grand groupe financier, on trouverait que c'est une excellente affaire qui vient d'être faite. Premier point.
C'est moins que le coût des APL.
Exactement. Donc c'est une bonne affaire économique de la part de l'État qui a défendu ses intérêts, parce que ses intérêts auraient pu être mis en péril avec une stratégie à 5 ans, par exemple, de voir une partie partir vers l'Italie ou vers la Chine, et pas forcément avoir des retombées économiques par rapport au chantier naval. Donc moi, je pense que la décision n'est pas mauvaise dans le contexte actuel, et en plus, elle renvoie à des signes politiques. C'est une décision contraire à ce qu'a décidé François Hollande, ce qui pour Macron est aussi très important, de dire qu'il choisit lui une autre stratégie, ne l'oublions pas en ce moment.
Vous pensez que ça pèse vraiment dans la décision?
Je pense qu'en ce moment...
C'est parce qu'il a dîné récemment avec Nicolas Sarkozy,
qui lui a raconté l'histoire à Somme. Mais en tout cas, c'est le meilleur problème.
Et avec, avec Arnaud Montebourg aussi, dont on sait qu'il est assez proche.
Je ne suis pas sûr qu'Arnaud Montebourg ait beaucoup influencé Emmanuel Macron dans cette décision.
Ils sont assez proches.
Peut-être. Mais en tout cas, la décision marque un tournant.
Emmanuel Macron était ministre de François Hollande, ministre de l'économie.
Bien sûr, on pourrait refaire toute l'histoire.
Mais où il a fait des privatisations.
Exactement. Mais sur le fond, la décision, elle lui permet politiquement, en ce moment, stratégiquement, mais également parce qu'il y a des enjeux militaires, quoi qu'on en pense, que l'État puisse garder un œil et ne prendre la voie en carré, je trouve que la décision n'est pas si mauvaise que ça. Certes, prise en plein milieu de l'été, mais il n'avait pas vraiment le choix là, parce qu'il fallait aller vite sur sa décision.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais vous allez peut-être pouvoir m'éclairer et m'informer dans un instant, c'est que je ne comprends pas pourquoi c'est un problème que les Italiens soient majoritaires dans les chantiers navals, alors que ce n'était pas un problème quand c'était des Coréens. On y revient dans un instant, dans la suite des informés.
Les informés, Guillaume Caour.
Yannick Halimi, Mathieu Delahousse, Pascal Blanchard et Jérôme Doncieux sont les informés du soir sur France Info. Alors expliquez-moi, moi je comprends pas, avec cette nationalisation des chantiers navals de Saint-Nazaire, jusqu'à présent ce sont des Coréens qui étaient actionnaires, vous m'arrêtez si je me trompe, 66% du capital. Pourquoi est-ce que ça devient un problème si l'Italie, qui est quand même un partenaire européen, a 55%?
Tout simplement parce que sur le transfert de technologie, le risque avec les associés des Italiens, qui l'ont déjà pratiqué, c'est que les Chinois puissent récupérer progressivement sur les prochaines années une partie du savoir-faire technologique.
Parce que quoi, chez les Coréens, la règle... Non mais chez les Italiens, il y a quoi? Des Chinois qui sont actionnaires?
Ils sont actionnaires, ils sont partenaires au niveau aujourd'hui d'une vision monde. On sait aussi que la Chine va devenir un des très gros pays de croisiéristes dans les prochaines années. Donc ils sont à la fois... en termes de réflexion, en termes de construction et en termes de stratégie extrêmement liée. On le comprend, parce que c'est une vraie réflexion. On sait bien que le tourisme aujourd'hui en Chine va être un énorme boom dans les 20 ans qui viennent. Donc il y avait une logique industrielle. Donc la peur, à la différence des Coréens, c'est qu'à un moment, cette technologie se transfère et que d'une certaine manière, tout simplement, STX se retrouve en perte.
Et les Coréens étaient plutôt un actionnaire passif. Là, c'est un actionnaire industriel.
D'accord.
Donc le verre à moitié vide, c'est ce que vous venez de décrire. Le verre à moitié plein, c'est justement l'opportunité qu'il y a, et à mon avis, qui reste. Parce que là, on est dans dans le théâtre.
Tout à fait. Je ne sais pas si c'est le théâtre,
mais en tout cas, c'est bras de fer. Macron est un banquier d'affaires. Donc, le banquier d'affaires, il met la pression en permanence pour que la négociation avance. C'est eux qui ont la main dans la négociation. Ils mettent la pression maximum. On ne peut pas du tout exclure, dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois, que ayant réglé la clarification stratégique dont vous parlez, il y ait une sortie par le haut de cette crise, qui soit la constitution d'un vrai Airbus européen des mers, avec toutes les garanties dont vous parlez.
Et avec la France à 51%, certainement.
Et avec
qui serait majoritaire dedans.
Avec la France, en tout cas, suffisamment puissante. Donc la partie n'est pas tout terminée, à mon avis.
Elle n'est pas terminée. C'est vraiment une nationalisation temporaire. Bruno Le Maire l'a dit.
Oui, il insiste bien. D'ailleurs, il n'a même pas parlé de nationalisation.
Les termes ont leur importance, absolument. Donc, il préfère parler de droit de préemption. Ça donne plus une impression de puissance. c'est de jupitérianisme économique. Que voulais-je dire, pardon ?
Donc c'est provisoire.
Et donc ils vont, c'est provisoire. Bruno Le Maire va aller discuter, effectivement, comme vous le disiez, en position de force avec les Italiens la semaine prochaine. Ça, c'est des éléments très importants. Ce qui est également très important, je ne sais pas si vous avez entendu les syndicats de STX, alors notamment la CFDT.
Eux, ils sont fous de joie.
Pas tous, hein. La CGT est plus nuancée, la CFDT est satisfaite.
La direction beaucoup moins.
Et on revient sur l'autre sujet.
Mais la CFDT dit bien que c'est une nationalisation, on va dire, temporaire, et que eux, ils attendent véritablement que le gouvernement négocie avec les Italiens, parce qu'ils préfèrent avoir un actionnaire industriel moyennant toutes les conditions qu'on vient de dire. Parce que, pardon, je termine, on sait très bien que les poches de l'État ne sont pas aussi profondes qu'un véritable actionnaire industriel comme les Ficantieri.
Mais on parle des Italiens, mais attendez,
les syndicats ne demandent pas la nationalisation.
Vous êtes sur le schéma.
Il n'y a pas que les poches. L'État ne connaît rien à ce business et c'est bien normal.
Oui, il y a ça aussi. Oui.
Non, mais c'est le plus important. Les poches, là, on parle.
Pas le militaire, peut-être, qui connaît quand même
l'aspect
militaire.
Mais ça ne représente rien pour
STX. Oui, dans l'occurrence,
c'est pas ça qui fait le business.
Ils veulent développer dans le projet l'aspect militaire.
À ce moment-là, c'est à Naval Group de prendre le contrôle et d'y aller. C'est pas du tout ce qui
c'est ce qui cela.
Alors attendez, parce que là on est sur le schéma où ils mettent la pression sur les Italiens pour monter un grand groupe européen. Mais et si les Italiens veulent pas, parce que les Italiens ils sont quand même remontés.
Les Italiens beaucoup, là. Ont envie d'avoir STX parce que c'est un concurrent.
Ça correspond. Eux-mêmes disent on n'a pas besoin de.
Ça
fait partie du jeu de la négociation quelque part pour les Italiens. Ce qui est important, ça leur permet d'envisager sur les 10-15 prochaines années d'avoir une forme de tranquillité, de pouvoir être prioritaire en termes de production sur leur stratégie. Donc oui, ça a du sens.
Et ça met les Italiens au pied du mur sur un choix entre l'Europe et sur la Chine.
Parce exactement.
Il y a, on sait bien que du côté du port de Shanghai, où il y a une expansion extraordinaire sur ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie, se créent des structures à échelle de 10 ans, de 20 ans, pour essayer de recréer des nouveaux pôle portuaire prioritaire et que là-dessus, la France peut mettre en avant une vision stratégique à très long terme sur lequel, effectivement, la négociation financière entrera, mais de façon très anecdotique. On est sur du court terme, sur le financier, et du très long terme sur le stratégique.
Il y a le vieux traumatisme aussi du TGV. C'est-à-dire que là, on commence à parler maintenant de voir qu'on a perdu, où les Chinois ont totalement capté une technologie, sont tout à fait capables de produire leurs trains, et ceci commence dans le monde industriel européen à se dire, il est temps d'avoir des politiques aussi protectionnistes sur nos savoir-faire industriels. Pendant 20 ans, on a développé nos technologies en acceptant que les Chinois puissent eux-mêmes récupérer cette technologie, et là, on voit un changement global, il n'y a pas que la France qui est concernée, l'Allemagne est tout autant concernée, de protectionnistes, de savoir-faire, de matière grise, parce qu'il y a un risque de voir au moins les Chinois maîtriser eux-mêmes dans le nucléaire, dans le transport, toutes ces industrie.
Est-ce que cette situation, ce bras de fer, aura des conséquences diplomatiques entre la France et l'Italie?
Dans le match France-Italie cette semaine, il y a 2-0. Hein, parce que il y a eu un problème majeur pour la France, si l'on veut. En tout cas, sur l'accord autour de la Libye, diplomatie italienne a l'air furieuse de ne pas avoir été suffisamment, en tout cas, associée à la photo. Hein, c'était il y a 48 heures.
Ou à la rencontre entre ces deux leaders libyens qui sont ennemis.
Hein, et ce qui est très important, parce que par ailleurs, l'enjeu de l'immigration, il y a des tensions énormes intra-européennes autour de ça. Donc, 1-0. Et 2-0 ce soir, il y a ça. Donc il y a quand même un vrai sujet diplomatique entre la France et l'Italie. Et par ailleurs, derrière, le paradoxe absolu de Macron, l'Européen, qui, je trouve là, communique pas très bien sur le sujet.
Mais parce que pas du tout, lui.
Le gouvernement ne communique pas très bien fait que c'est pas à l'encontre de la construction européenne, mais c'est une certaine vision de la défense des intérêts européens. Et là-dessus, le gouvernement français est assez défensif, alors qu'au contraire, il pourrait, à mon avis, devrait être offensif.
Oui, il y a deux, effectivement, il y a un autre élément qui peut donner l'impression que Macron, l'Européen, la joue plutôt franco-française, cocorico. Il y a ce que vous disiez sur la Libye, il y a ce que l'on voit en apparence sur STX, puisque c'est quand même un bras de fer avec l'Union Européenne, au nom des intérêts avec l'Italie, pardon, au nom des intérêts stratégiques français. Il y a aussi l'histoire dont on va parler tout à l'heure, quand je dis l'histoire, c'est un peu trivial, mais des hotspots que veut installer Emmanuel Macron, on va en parler tout à l'heure,
grillez
en
pas
Libye,
le débat,
sans en parler ni à l'Europe, ni à l'Italie, qui est la principale visée, mais je pense, et là c'est un pari sur les quelques jours, en termes de communication et de réalité de la politique macronienne, si je puis dire, il faut qu'il en sorte par le haut, en poussant l'Italie, en l'occurrence, à engager, comme vous le disiez Pascal, une véritable politique industrielle européenne, l'Airbus dont on parlait tout à l'heure.
Mais ça voudrait dire qu'il faudrait que Fingantieri, l'Italien, change d'actionnaire.
Pratiquement, oui, il est impossible
dans sa vision industrielle. On peut pas construire un Airbus naval avec des...
C'est l'État italien qui est essentiellement
c'est plus
compliqué. Derrière, donc il y a ces traits politiques.
Fingantieri doit choisir quelque part une stratégie majeure. C'est-à-dire qu'il peut pas être sur deux stratégies qui sont contradictoires à un moment, il faut être honnête. Là-dessus, on va être simple. Vous avez un partenaire, il a un autre partenaire, et cet autre partenaire est votre concurrent, vous posez quand même une question. N'importe quel industriel se poserait cette question. Et comme aujourd'hui, il n'y a pas de concurrent industriel français capable de faire ce que fait le gouvernement français, le gouvernement français...
Donc en gros, c'est à Fingantieri de choisir, soit il choisit les Chinois, soit il choisit les Français.
Non, je pense que la négociation va se faire dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas majoritaires dans le futur STX. L'idée de Macron, c'est de les faire rentrer.
Ça pèse lourd ou pas, 50, les Chinois 50,
mais non, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient un gros pourcentage du capital dans Fingantieri en tant que tel.
Les Chinois,
ce sont plutôt des joint ventures et un partenariat.
Et un partenariat
avec la Chine,
part...
c'est surtout l'État italien qui est derrière Fingantieri. Donc, du coup, une solution politique européenne, de politique industrielle européenne, prend tout son
sens.
Mais
avec seulement 33%, c'est comme ça que ça va finir.
Et c'est comme ça que se termine notre débat
pour les Français. Dans le meilleur des cas.
Sur cette nationalisation des chantiers navals de Saint-Nazaire. Nous allons poursuivre dans un instant avec ces hotspots. C'est un terme qui a l'air très branché comme ça. Hotspot, ça fait très nouvelle techno. En fait, il s'agit d'accueillir des demandes de réfugiés en Libye. Et c'est une proposition d'Emmanuel Macron. C'est la suite des informés de France Info.
Les informés, Guillaume Cahour.
20h22, la suite des informés de France Info, Yannick Halimi, Pascal Blanchard, Mathieu Delahousse et Jérôme Doncieux. Emmanuel Macron a visité aujourd'hui un centre d'hébergement de réfugiés dans le Loiret. Il a annoncé vouloir filtrer en quelque sorte les demandeurs d'asile avant leur arrivée en Europe.
Nous créerons les voies et moyens de traiter les demandes d'asile sur le sol africain, plus tôt, dans de meilleures conditions, pour éviter que des familles entières prennent des risques, parfois perdent la vie, pour une procédure qui leur est d'ores et déjà impossible d'atteindre.
Ça part d'un bon sentiment, mais est-ce que c'est réaliste ?
C'est ce qu'on fait en Turquie. On a trouvé une solution, c'est de laisser les populations migrantes ou qui veulent réfugier dans les pays de départ et non pas dans les pays d'arrivée. C'est exactement, d'abord c'est ce qu'ont fait les Anglais à Calais, ils ont tout à fait compris, les gens restent à Calais, ils vont pas en Angleterre, on l'a fait avec la Turquie, c'est l'accord que l'Europe a passé avec la Turquie. La logique aujourd'hui des politiques publiques, c'est d'annoncer que systématiquement ceux qui arriveront seront renvoyés chez eux, il vient de le dire dans son discours. Deuxième élément, maintenant, c'est pour ça aussi qu'il a rencontré des leaders actuellement de Libye, c'est de financer sur le terrain, d'ailleurs c'était le sens de la réunion qui a eu lieu le 6 juillet de plusieurs pays européens, de financer dans les pays de départ, je rappelle quand même qu'on parle de 800 000 à 1 million de personnes actuellement en Libye, qui sont en transit, donc si on parle le mot clairement, ils ne viennent pas en Libye pour rester en Libye, qui veulent venir en Europe. C'est à peu près la moitié de ce qui était estimé sur la Turquie qui voulait venir sur l'Europe. Donc la logique maintenant, elle est très claire au niveau de l'État européen, ça c'est depuis, on l'a tous oublié, mais depuis que la frontière a été fermée entre le Maroc et l'Espagne, la stratégie est celle-là. On intervient, alors c'était facile parce qu'il y avait les enclaves espagnoles au Maroc, on intervient sur les continents de départ et non pas sur les lieux d'arrivée.
Alors c'est un bon sentiment d'apparence peut-être, mais il faut souligner que c'est dans une logique malgré tout de fermeté du gouvernement. On retrouve dans les propos d'Emmanuel Macron aujourd'hui beaucoup d'emphase et beaucoup de conscience exprimée, mais on est dans la philosophie des propos du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui avait provoqué un tel tollé quand il était allé à Calais. Il avait parlé de populations enkystées à Calais, c'est-à-dire des populations qui n'arrivent pas à avoir un chemin jusqu'au bout de leur demande de migration. Et aussi, il avait parlé de cette question de l'appel d'air. Aujourd'hui, l'urgence gouvernementale, c'est une urgence humanitaire, c'est une urgence politique, c'est comment mettre un terme à cet appel d'air et comment empêcher d'avoir des points de fixation à Sangatte, à Calais, avec des gens enkystés. Et effectivement, cette solution, elle est très novatrice, mais elle entre pas forcément dans un bon sentiment, elle entre dans une volonté de fermeté et de contrôle de ces flux pour faire cesser l'errance de ces gens qui risquent leur vie sur la Méditerranée.
Voilà, exactement. Ouais. Il y a cette volonté de contrôle que Emmanuel Macron et la France veulent faire seuls. Ça, je trouve que c'est assez ennuyeux. Ça aurait pu être une décision européenne. Il la prend pour le moment.
Mais est-ce que c'est pas une manière de forcer l'Europe à le
faire? Alors écoutez, peut-être que ça fait.
Pour le moment, c'est la réunion du 6 juillet. Il est dans la continuité de ce qui s'est décidé le 6 juillet avec les puissances européennes.
C'est une décision. Ah non, mais les hotspots installés en Libye.
Ah oui, les hotspots en Italie, mais en Libye, c'est une décision
française.
C'est une solution qui peut.
Et c'est l'OFPRA. L'OFPRA est un organisme français.
Absolument.
Mais je voudrais juste.
Je voudrais juste terminer, pardon. Il répond aussi. Enfin, il répond. C'est une réponse partielle à l'appel à l'aide, effectivement, à l'Italie, dont on parlait tout à l'heure, qui reçoit énormément de gens depuis que la route des Balkans a été fermée. Mais c'est vrai aussi que ça répond à une partie de. Vous disiez, est-ce qu'elle est réaliste? C'est vrai que après, on peut estimer que les immigrés qui arrivent en France, les réfugiés, pardon, ont toute leur place et avec un effort et une volonté politique pour s'installer en France. Ça pose quand même probablement des problèmes, au moins politiques, que je ne veux pas juger au plan moral, sur ne serait-ce que Sangatte ou. Et Emmanuel Macron, en mettant ces hotspots hors du territoire français, veut, comme vous le disiez, établir une, entre guillemets, une sélection, un filtrage pour ne prendre que les vrais, pardon d'utiliser des termes aussi
ceux
durs,
qui fuient la guerre,
les vrais
quoi.
Réfugiés politiques.
Voilà.
Et donc,
ceux qui fuient la terreur de leur pays.
Les réfugiés économiques, si je puis dire.
Mais les réfugiés économiques, eux, ils continueront à traverser avec les passeurs.
Voilà, après, 80% des réfugiés en Libye aujourd'hui sont des réfugiés d'abord économique. Il y a des réfugiés politiques aussi parmi eux, mais qui prennent les mêmes parcours, on le sait très très bien. Leur arrivée sur le sol européen n'est pas la même manière de les gérer, mais au niveau du départ, vous avez à peu près à 80-20 aujourd'hui. Mais je rappelle quand même que le 6 juillet, ce qui a été négocié entre 8 États européens et 6 États africains, c'est exactement ça. L'Europe a débloqué de l'argent, il y a alors seulement l'Italie qui a payé. Normal, ils sont les premiers concernés. Mais l'Europe vient de décider les mêmes choses. Donc ce n'est pas qu'une décision unilatérale.
C'est-à-dire
des
mettre des hotspots en Libye.
Ah, mais de financer la capacité en Libye. Alors soi-disant, on va faire du développement, ce qu'on sait jamais, ce qui n'arrive jamais. On va soutenir les ONG, ce qui n'arrive jamais. Par contre, on va maintenir les populations locales, on va aider les Libyens à faire que les gens ne prennent plus les bateaux. Ça va être très concret. Et les budgets vont arriver pour ça. Les Libyens vont rentrer dans une logique partenariale dessus. Je vous rappelle, c'est ce qu'avait négocié Berlusconi avec Kadhafi. Il y a quelques années, quand il avait donné 5 milliards pour construire une autoroute, il avait reconnu les crimes de la colonisation et en échange, Kadhafi s'était engagé à contrôler le départ des migrants de ses côtes. Nous avons une vieille politique et là-dessus, Emmanuel Macron...
Donc on revient en arrière.
C'est pas qu'on revient en arrière, ça fait 10 ans à peu près que l'Europe commence à penser l'affaire de Melilla, l'affaire de l'Espagne et du Maroc. Et c'est déjà ça, maintenant c'est devenu institutionnalisé. Emmanuel Macron vient juste d'accélérer le processus décidé le 6 juillet.
Pour conclure, Jérôme Nancieux.
Moi je pense qu'Emmanuel Macron a d'excellentes lectures, notamment l'Obs, puisqu'il y a, il y a 18 mois, il y a un de vos confrères, François Dufour, qui est un bon spécialiste de ces sujets d'immigration, parce qu'il va souvent à Lampedusa, à Calais, etc., qui a écrit une tribune sous les yeux. Crise des réfugiés, la solution est simple et le Canada vient de l'appliquer. Je cite le début. Il est grand temps de dire bienvenue aux réfugiés et stop aux migrants économiques. Et donc derrière, il y a une vision de ce qui est en train de se passer. Effectivement, c'est quelque chose qui est à mon avis politiquement très, très important. C'est droits et devoirs. La France a le devoir d'accueillir les réfugiés politiques. Et en revanche, a le droit de dire non à l'immigration économique. C'était dit de façon suave, très enrobée par Macron.
Donc c'est intéressant parce que là, c'est vraiment les fondations de la politique migratoire de Macron qui est posée aujourd'hui.
Avis, c'est très révélateur du style Macron.
Avec un nouveau président de la République française.
D'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'un nouveau président de la République ne fait pas changer une politique européenne. L'Europe se dirige vers cette solution médiane depuis une dizaine d'années, avec les durs. Et Merkel, qui était plutôt dans un drôme, mais même Merkel n'est pas loin de penser comme ça sur les migrants économiques.
Allez, la suite des informés. C'est dans quelques minutes, après la météo et le rappel de l'actualité, nous allons parler dans quelques instants de la moralité dans la vie publique avec une nouvelle affaire qui vient handicaper la ministre du Travail. A tout de suite sur France Info.
Les informés, Guillaume Caour.
20h33, la suite des informés de France Info. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous pouvez bien évidemment participer à ce débat sur la page Facebook de France Info en live. Jeannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien, Pascal Blanchard, historien, Mathieu Delahousse, chef du service investigation de l'Obs, et Jérôme Doncieux, cofondateur de Relax News. Vous êtes les informés ce soir. Merci d'être là. 900 postes supprimés chez Danone. 1 million d'euros de stock options, ce serait peut-être bien la nouvelle polémique Pénico. C'est l'Humanité qui a révélé cette affaire qui risque d'affaiblir un petit peu plus la ministre du Travail. Selon le quotidien aujourd'hui, eh bien, lorsqu'elle était DRH de Danone, elle aurait réalisé une plus-value d'un peu plus d'un million d'euros lorsque le cours de bourse de l'entreprise s'est envolé. Dopé par quoi ? Par l'annonce de 900 suppressions de postes. Au Sénat, la présidente du groupe communiste, Éliane Assassi, a attaqué la ministre aujourd'hui. Elle était présente, la ministre. Et les autres communistes, pendant ce temps, ils brandissaient la une de l'UMA.
La plus-value réalisée s'élève à 1 129 000 euros. Elle a été réalisée grâce à une flambée boursière en faveur de Danone suite à l'annonce de la suppression de 900 emplois. Ce point est extrêmement grave sur le plan éthique et peut-être sur le plan juridique, car de par vos fonctions, vous avez organisé ce plan social et vous en avez récolté les fruits pour votre profit personnel. De là à parler d'initiés, il n'y a qu'un pas à franchir.
Alors je vais donner, si vous voulez bien, la chronologie exacte d'après l'Humanité. Avril 2009, on attribue à Muriel Pénicaud, DRH de Danone, des actions au cours de 34,85€. 19 février 2013, Danone annonce des suppressions de postes, 900 postes dans le monde. Le cours de bourse s'envole les semaines suivantes. Et deux mois et demi après, le 30 avril 2013, Muriel Pénicaud aurait vendu à ce moment-là des actions à 58,41€, avec donc une plus-value d'€1,129,000. Est-ce que c'est une nouvelle affaire pour la ministre du Travail ?
Politiquement, ne serait-ce que politiquement, pour le moment, c'est le stade le plus immédiat et le plus objectif, si je puis dire, et encore. Oui, évidemment, parce que en pleine discussion de la loi sur la moralisation, après l'histoire des emplois familiaux, oui, parlementaires,
et pardon, des collaborateurs... sur le projet de loi, la réforme du Code du Travail,
et
qui prévoit de faciliter les licenciements.
Et bien sûr, et vous avez tout à fait raison, la moralisation et également la réforme du Code du Travail sur laquelle Muriel Pénicaud a la main, politiquement, c'est dur à porter. Juridiquement, comme le disait d'ailleurs la sénatrice communiste, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire. Est-ce qu'il y a délit d'initié? Ça paraît compliqué, délit d'initié. Ça voudrait dire que Mme Pénicaud aurait levé ses options en sachant pertinemment qu'elle, en tant que DRH, elle allait annoncer un plan de suppression d'emplois qui, quelques mois plus tard, allait provoquer la hausse des actions. C'est pas évident.
C'est pas légal, c'est pas illégal, mais moralement, ça se discute.
Mais pour le moment, rien ne dit que c'est illégal. Les plans, comme le disait, a été ouvert en 2009, et puis il y a des fenêtres de réalisation des options qui sont légalement.
C'est très réglementé.
Voilà, c'est très réglementé, mais politiquement, effectivement, c'est un nouveau pavé dans la mare.
Oui, c'est un pavé dans la mare, et c'est pas la première fois que le gouvernement est confronté à ça. Si on voulait sourire un petit peu, c'est pour l'instant pas une affaire. C'est une bonne affaire. Est-ce que pour autant ce n'est pas grave ?
Comment ça ?
C'est une bonne affaire pour Muriel Pénicaud. À l'époque, elle est dirigeante aux ressources humaines de Danone.
Oui,
elle a
ses
stock options. C'est une très bonne affaire. C'est cette expression qu'on avait employée également sur Richard Ferrand quand il avait réalisé son opération immobilière. On disait, elle n'est pas illégale, c'est une bonne affaire. Et ce sont ces gens qui, effectivement, arrivent de la société civile, qui sont étaient dans la hiérarchie.
Qui ont fait
et
du
même,
business, quoi.
Dans la Sauf direction
elle
d'entreprise.
Pas du business,
et donc, ce sont des bonnes affaires. Ce sont des gens qui ont été récompensés comme on récompense aujourd'hui dans le patronat. Et finalement, tout cela serait resté privé si ces gens-là n'étaient pas arrivés sur la sphère politique avec la violence que ça suppose. Et aujourd'hui, cette bonne affaire, elle devient insupportable, notamment pour les parlementaires qui se sont exprimés cet après-midi.
Pardonnez-moi, c'est vraiment le bal des faux culs et c'est un chef d'entreprise qui vous parle. Danone est une immense entreprise. Cité en exemple... pour son progressisme social, qui est vraiment un fer de lance en matière d'innovation à tous les niveaux. Être DRH d'un groupe comme ça, c'est être dans le top 5 ou top 7 de ces boîtes-là. Des dirigeants de ce niveau-là, que vous fidélisez en leur donnant des actions, l'Humanité titre « La journée à 1 million d'euros » de Muriel Pénicaud. Bon, on se fout du monde. On se fout du monde. Quand vous avez des stock options, comment ça marche? C'est la contrepartie d'une durée de suffisamment longue dans l'entreprise.
Cinq ans.
Pour mériter ça. Donc moi, je trouve vraiment derrière qu'il y a, ça prouve d'ailleurs à quel point il faut que la loi travail réussisse et aille au bout, et à quel point c'est en train de déranger tout le landerneau. Mais moi, je trouve qu'avoir des dirigeants qui réussissent... Et le parallèle avec Richard Ferrand me scandalise. Parce que Richard Ferrand, il y a potentiellement, on verra si la justice dit ça, il y a potentiellement un conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'il y a une position dont on peut bénéficier ou fait bénéficier quelqu'un.
Pour être clair, je parlais du déclenchement de l'affaire en disant c'est légal, mais c'est considéré comme une bonne affaire
là,
avec
là,
une position différente.
C'est une dirigeante d'une immense entreprise française citer en exemple Emmanuel Faber, qui est le président, est probablement en plus l'un des patrons les plus intéressants dans la dimension sociétale d'une boîte.
D'accord.
Et derrière, on nous fait le coup du « Ah, ces patrons qui gagnent trop d'argent ». Mais excusez-moi, mais il y a vraiment besoin d'une vraie pédagogie,
du
succès dans ce pays, je suis désolé.
La pédagogie, je suis d'accord avec vous, peut-être que la France n'est pas encore imbibée de la culture d'entreprise et qu'elle a un vieux syndrome, comme on dit, judéo-chrétien, qui est complètement faux comme expression, mais peu importe, contre l'argent, l'argent c'est le mal, etc. Il n'empêche que les stock-options, dans leur motivation originale, c'est récompenser la prise de risque. Alors, les stock options qui s'appellent de différentes façons dans les PME, dans les start-up, dans ce qui est devenu Google, où effectivement il y avait de fortes prises de risque de la part des parts de fondateurs, peut tout à fait se justifier économiquement, financièrement, peut-être moralement, je n'en sais rien. Dans le cas de Muriel Pénicaud, dont je ne nie ni les compétences, ni ni le fait qu'elle travaille dans un grand groupe socialement avancé, j'en sais rien, ça c'est un autre débat et je ne suis pas sûre que tout le monde soit d'accord là-dessus. Peu importe, il n'y a aucune prise de risque. Les stock options, vous n'avez aucun risque de perdre, vous avez toutes les chances de gagner.
C'est dans un instant la suite de notre débat.
Les collaborateurs de haut niveau.
Gardez votre salive.
Muriel Pénicaud ne prend aucun risque. Si elle veut partir, c'est elle qui prend, entre guillemets, qui saisit la chance de partir quelque part.
Mais Yannick Halimi, Jérôme Doncieux, Pascal Blanchard et Mathieu Delahousse, s'il vous plaît.
Et des cadres responsables dans les grandes entreprises.
Vous connaissez l'expression la ponctualité radiophonique. Il est 20h40, c'est l'heure du rappel de l'actualité. On poursuit ce débat, c'est promis, dans une minute.
Les informés, Guillaume Cahour.
Jérôme Doncieux, Mathieu Delahousse, Yannick Halimi et Pascal Blanchard qui trépignent d'impatience pour rebondir sur ce débat, sur cette nouvelle peut-être polémique ou embryon de polémique autour de Muriel Pénicaud. Je rappelle pour ceux qui arrivent, parce que c'est vraiment tout frais, hein, ça a monté là en toute fin de journée au Sénat et à l'Assemblée nationale. Voilà ce que reproche l'humanité et les communistes à Muriel Pénicaud, ministre du Travail, c'est d'avoir enclenché, racheté ses stock options après une flambée du cours de bourse de Danone lorsqu'elle était DRH. Et le cours de bourse, pourquoi il avait flambé? Parce que Danone avait supprimé 900 postes alors qu'elle était DRH. Pascal Blanchard.
Et que ça tombe sur Muriel Pénicaud, qui quand même était déjà mal partie par rapport à la première affaire qu'elle avait. Deuxième affaire, quand vous devez défendre la loi qui va être censée être la plus équilibrée, la plus importante, la plus symbolique du début du mandat d'Emmanuel Macron, il y a un problème sur la personne. Il y a un problème en termes où les Français, demain matin, vous verrez au bistrot, parleront de cette conversation. C'est alors déjà, il y a l'affaire de Las Vegas. Maintenant, on découvre qu'en tant que DRH, elle met du monde dehors et elle prend 1 300 000. Les gens commencent à se dire, elle est curieuse personne pour porter une loi qui va à tous tout serrer la ceinture et qui elle-même n'est peut-être pas la plus en phase avec ça. Et on découvre des choses. C'est-à-dire que les gens, là où il y a quelque chose qui est efficace, qu'elle se soit légitime parce qu'elle n'a pas volé ses stock options, elle a signé son contrat, ils étaient prévus, elle a fait ses 4 ans chez l'autre, on est entièrement d'accord qu'elle est licenciée aussi, on le sait.
Il n'y a pas que ça.
Non, attendez, on est d'accord. Par contre, ce que je veux dire, c'est que moralement, la personne qui va devoir porter une des lois les plus importantes sur le travail, qui va donc demander aux Français, on le sait, du sacrifice pour assouplir l'économie, par définition, cette personne devra être inattaquable.
Mais attends, c'est quoi le sacrifice? C'est le nombre de chômeurs qu'on a aujourd'hui?
Le sacrifice, c'est que la loi travail qui va arriver, par définition, va avoir un impact énorme sur les Français. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a annoncé comme la loi la plus symbolique de son début de mandat. Et la personne qui est censée porter ce symbole, aujourd'hui, a un problème sur sa personne. Qu'on trouve qu'il y ait eu des raisons objectives, techniques, on est d'accord. Le problème n'est pas de savoir même si c'est légal, peut-être que ça ne l'est pas, on ne sait pas à l'heure actuelle. Mais moralement, il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond sur... Et c'est la deuxième affaire en deux mois.
L'autre loi symbolique, ô combien c'est la moralisation dont le Parlement et l'Assemblée nationale est en train de...
Et c'était François Bayrou,
de discuter et qui doit retisser la confiance entre le monde politique et les Français, c'est extrêmement important là aussi. Et qu'est-ce qu'on voit avant même le déclenchement de cette affaire? La France insoumise qui s'est saisie de cette loi pour l'ouvrir, qui est limitée à la moralisation du monde public et de la vie politique, tente... Et le fait, d'ailleurs avec brio, d'élargir le thème de la moralisation à tout ce qui est le secteur privé, avec justement ces attaques qu'on peut estimer un peu spécieuses, mais sur le CAC 40, sur le règne de l'argent, etc., etc., bon, qui sont certainement une transière et je ne veux pas les juger, mais en tout cas, en termes terme politiques, cette affaire-là va totalement alimenter, voire justifier et légitimer le discours de la France insoumise.
Mais je crois, ce qu'on n'a pas mesuré, effectivement, et c'est peut-être les réactions alors au bistrot, je ne sais pas, mais c'est l'hypersensibilité autour désormais de ces questions d'argent, hein, argent légitime ou non, et puis le politique qui peut gagner de l'argent ou pas. Moi, j'étais ce matin à l'Assemblée nationale, j'étais allé écouter Nicole Belloubet sur la loi de moralisation
de la
justice. Et c'est très impressionnant de voir à quel point les discussions ce matin étaient pied à pied sur des détails, alors sur les notes de frais, évidemment sur les indemnités de représentation, mais aussi sur les heures de travail. C'est-à-dire, que disent les Français ? Doivent-ils nous voir quand on est dans l'hémicycle ? Doit-on compter la période en commission ? Doit-on supprimer finalement la partie quand on est en circonscription,
doit-on
pour
donner le justificatif de dépenses de frais,
doit-on donner les justificatifs
Après,
on est dans une classe politique, et c'est juste ça, moi, qui m'avait troublé et que je voulais souligner, une classe politique qui est en train de se remettre en question intégralement sur son rapport à la vie politique, mais aussi à l'argent et dans ses moindres détails. Le prix du café, la présence,
mais c'est normal.
C'était pas le cas il y a 10 ans. Et l'affaire Pénicaud au milieu de tout ça fait qu'il y a un changement d'état d'esprit démentiel.
Mais Pénicaud, aujourd'hui, si elle était ministre suédoise, aurait déjà démissionné depuis le début de l'affaire Las Vegas. Avec une affaire comme ça, elle tient 2 jours. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes certes en période de mutation, donc hypersensibles, mais d'une certaine manière, en Suède, nous n'aurions jamais mis comme ministre du Travail, Madame Pénicaud. Parce que la question serait posée a priori.
La question aurait été claire.
On aurait regardé ces stock options.
Sauf qu'il n'y a rien d'illégal.
La question n'est pas d'illégalité, la question
est de... Je suis pas sûr que la comparaison avec la Suède se
passe. Alors, je voulais une chose. Rappelez-vous cette ministre qui avait démissionné parce qu'elle avait payé un restaurant.
Parce que c'était illégal. Là, dans le débat sur
Non seulement c'est légal, mais c'est heureux. C'est heureux.
Pourquoi?
Mais oui, pardon.
Ah là, au bistrot, ça va faire discuter le matin.
Justement,
il ne vous reste pas à croissant au beurre le matin.
Vous croyez que les stock options de Mme Pénicaud ont favorisé l'investissement, la recherche, le développement au sein de Danone?
Je voudrais savoir pourquoi c'est heureux. Pourquoi c'est heureux, Jérôme Monsieur?
Sans parler des
suppressions d'emplois. Mais bien sûr, parce qu'un DRH, il gère les talents. Les talents, c'est l'élément le plus important dans une entreprise. Donc là, on a la vision défensive de « il y a des départs ». C'est surtout... Le boulot du DRH...
Il gagne combien?
Mais c'est normal.
Ça représente... Je rappelle que ces stock options ne représentaient que 50% de son salaire annuel.
Je voudrais qu'il aille au bout de son idée, s'il vous plaît.
Mais parce que, donc, le DRH, il est là pour gérer les talents et faire en sorte d'attirer les meilleurs, de garder les meilleurs. Et donc, ça vaut de l'argent, c'est absolument normal. C'est heureux d'avoir des gens de grande qualité. Il est heureux de voir que cette DRH, plutôt citée en exemple, d'après tout ce que j'ai lu sur elle, a ensuite été dans le public, en l'occurrence à Business France, pour promouvoir les intérêts français. Je trouve heureux qu'un profil comme celui-là soit aujourd'hui
opérationnellement en train de concevoir une loi. Pénicaud, qui n'est qu'un élément qui pourrait être totalement anonyme, les stock options, la procédure de stock options existe en France et c'est comme ça. Il n'empêche que depuis la crise financière, souvenez-vous, de 2008, y compris au sein du MEDEF, de l'organisation patronale, qui a tenté de s'auto-réglementer et d'établir des règles pour régulant les salaires des grands patrons, les stock options. Des gouvernements comme sous la présidence de Nicolas Sarkozy avaient aussi émis l'hypothèse de légiférer sur...
Ils sont revenus sur cette technique managériale.
Ces gens-là ont fait marche arrière, on ne va pas refaire l'histoire. Il n'empêche que si le capitalisme veut fonctionner comme le monde politique pour ne pas susciter le populisme, si le capitalisme ne veut pas susciter des anticorps qui le balayeraient ou en tout cas qui le méprisent comme une partie de la classe politique peut le faire, il faut qu'il lui aussi fasse son autocritique.
Encore une fois,
les stock options va à l'encontre de la prise de risque et ne rémunère pas la prise de risque.
On sait bien tous que l'affaire là serait à pétard mouillé s'il n'y avait pas l'affaire de Las Vegas avant.
C'est le cul. Si non,
c'est parce qu'il a le travail.
Mais non,
c'est parce que la loi travail dérange.
Mais non, mais tout simplement parce qu'elle est ministre.
Mais attendez,
elle est ministre.
C'est
une loi majeure.
C'est la deuxième affaire sur le même ministre depuis le début. C'est un peu comme Bérou qui à un moment vous porte
la bonne nouvelle. Messieurs, dames, la bonne nouvelle, c'est que nous allons.
Sa vie de DRH également. On saura par la haute autorité de la vie politique dans les jours qui viennent combien elle a touché précisément ces trois dernières années. Et on aura effectivement un fossé entre. Vous caricaturez ça d'une façon très positive, on pourrait dire c'est la France qui gagne. Et peut-être qu'il est heureux qu'elle existe, mais peut-être qu'il est délicat pour ceux qui l'observent de la voir arriver dans le débat sur le monde du travail.
Nous allons poursuivre notre débat dans un instant, mais sur cette loi de moralisation de la vie politique avec les élus qui sont privés de collaborateurs familiaux. C'est la fin de toute une époque et c'est aussi l'onde de choc de l'affaire Fillon.
Les informés, Guillaume Cahour.
La suite des informés de France Info, dernière ligne droite, Yannick Halimi, Pascal Blanchard, Mathieu Delahousse et Jérôme Doncieux, avec ces élus qui seront donc privés de collaborateurs familiaux. Interdiction pour les parlementaires et aussi pour les élus locaux d'ailleurs d'employer des membres de leur famille. En quelque sorte, les députés pensent les plaies de l'affaire Fillon et également de Bruno Leroux, parce qu'on en parle beaucoup moins, mais lui aussi avait dû démissionner parce qu'il avait fait travailler ses filles. Est-ce que là, finalement, c'est la fin de ce chapitre qui a tellement pollué la campagne politique, la campagne présidentielle ?
Si c'est la fin. En tout cas, c'est une mesure que moi je trouve extrêmement saine et simple. C'est à partir du moment où vous avez une mission publique, vous n'avez pas à en faire bénéficier votre famille. C'est simple. Pour éviter qu'il y ait le moindre risque, on n'est pas les premiers pays au monde à le pratiquer. Il y a des pays où ça se passe très bien. Depuis 15 ans, vous ne voyez pas des enfants qui sont assistants parlementaires, vous ne voyez pas une maire adjointe ou un élu directeur, alors si c'est une maire adjointe, elle a été élue, mais quelqu'un qui est directeur de cabinet, qui est l'épouse d'un élu. Je trouve que c'est sain, le temps où un homme ou une femme exerce un mandat, de ne pas en faire bénéficier son entourage. C'est le minimum qu'on demande. Voilà, donc autant le mettre dans la loi. Je vous rappelle que c'était un cinquième des élus qui, au Parlement, au mois de février cette année, avaient encore un membre de leur famille qui travaillait. Et si on regarde sur l'ensemble de la magistrature 2012-2017, que pour les députés, je ne parle même pas des sénateurs, je parle que des députés, et ça représentait 2 sur 5. Mais les élus locaux, c'est encore, ça dépend à quel niveau vous descendez. Si vous considérez que le maire d'un petit village de 500 ou 600 habitants, vous pratiquez la même logique, alors qu'on sait qu'en plus... parce qu'ils ne sont pas payés. Parce que les assistants sont simplement pas rémunérés. C'est pas la même chose. Attendez, on rentre dans un monde, vous avez des gens qui sont presque dans bénévolat dans une petite commune, vous n'allez pas imposer le même système que des gens qui prennent des salaires qui dépassent 7 ou 8 euros. Il faut aussi que la logique ne soit pas complètement absurde. Il faut regarder le système de l'intérieur.
Quand vous dites tourner la page, je pense que vous allez un peu...
C'est une question.
Oui, voilà, j'imagine. C'est un pas en avant énorme, ce que fait la loi de la moralisation en ce moment, là, depuis. C'est des choses dont on aurait...
Vous dites c'est énorme, mais est-ce que c'est symbolique ou ça change vraiment? Ça va jamais...
Donc sur les emplois familiaux ou la loi en général?
Non, sur les emplois.
Écoutez, c'est important, ça existe dans beaucoup de pays européens, à l'Union européenne, enfin au Parlement européen également. Alors on peut toujours dire que tout est symbolique.
Mais est-ce que finalement, on n'a pas fait un amalgame entre emplois familiaux et emplois fictifs.
Si, ça c'est le problème de fond. C'est que il y a eu cet amalgame-là qui est probablement malheureux. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la politique jusque-là, c'était beaucoup une PME familiale. Parce que la politique c'est tellement violent que ça demande une forme de confiance, une forme de confort.
Il y a 100 députés dans la législature précédente qui employaient.
Apparemment, il y en a encore 50 ou 100 là en ce moment.
Si on cumulait, c'était 215 députés sur l'ensemble de la majorité qui ont eu un moment un membre de leur famille dans leur entourage.
Dans la dernière législature.
Je pense que ce mouvement est très important. C'est aussi la fin de la consanguinité, et ça c'est fondamental parce que les collaborateurs seront de profils différents, d'univers différents. Il va y avoir, ça va apporter de la diversité à l'Assemblée nationale.
Pourquoi différents? Au contraire, ça va peut-être plus être des profils techno, énarques, Sciences Po, etc.
Oui, mais déjà, comme c'est...
Là, quand vous travaillez avec votre femme, c'est pas forcément...
Je pense que quand même, ça va ouvrir un peu les...
Ça va ouvrir les chakras.
Sauf au Front National,
où donc Damien Philippot devient l'assistant parlementaire.
Le frère de Florent.
C'est peut-être un tort, mais on se dit que de ne pas employer sa femme ou ses enfants, c'est employer plus rationnellement des collaborateurs au service des affaires publiques, donc sur des critères qui sont moins familiaux, même si les enfants...
Ça sera moins sur les critères critères de confiance et plus sur des critères de compétence.
Et puis, compétence ne signifie pas ne pas avoir de confiance non plus.
Mais la confiance devra se construire.
Ce qu'on a constaté malgré tout à l'Assemblée nationale sur ces débats, c'est que se crée une espèce de mutation quasiment sociétale. C'est-à-dire qu'on avait effectivement la politique qui fonctionnait de façon très clanique et très familiale, avec des notes de frais qui n'étaient pas forcément déclarées, les indemnités qui étaient distribuées sans contrôle, et il n'y en avait pas.
C'était
aujourd'hui, alors la loi ne va pas loin partout. Il y a des choses sur lesquelles il y a des échecs. Le casier judiciaire, par exemple, n'a pas été imposé. Mais ça, c'est une parenthèse que je voulais faire.
Absolument.
Mais sur la mutation qui est en train de s'opérer, c'est qu'on est en train d'imposer à ce personnel politique de travailler effectivement comme s'il travaillait dans un grand groupe, dans une grande entreprise. Donc c'est la fin de la famille, emploi fictif ou non. On se souvient que c'était Dupont-Aignan qui disait que sa femme était devenue son assistante parlementaire, sinon elle ne serait plus sa femme. Ouais. Mais effectivement, aujourd'hui, ces gens sont en train de se rationaliser. Alors c'est assez peu surprenant pour les jeunes députés En Marche qui arrivent, qui n'avaient pas d'expérience politique, mais pour tous les autres qui font partie des groupes politiques plus anciens et plus installés, c'est une mutation, c'est une révolution dans les comportements, et ça va changer beaucoup de choses.
Au Sénat, ça va être titanesque en termes d'impact, parce que quand vous voyez le mode de fonctionnement, alors le Parlement, déjà, c'était compliqué, mais alors le Sénat, c'était encore beaucoup plus clanique, et alors ce qu'il faut éviter, par contre, c'est qu'à un moment, on va se repasser potentiellement les enfants possibles, parce qu'il y a aussi une logique qui existait, c'est quand tu avais fait un ou deux ans dans un cabinet, ou près d'un sénateur ou d'un député, tu pouvais basculer chez le collègue et tu t'échangeais. On l'a vu, je vous le rappelle, avec le remplaçant de Fillon, qui a récupéré quand même son épouse.
Monsieur Joulot, mais je pense pas que les parlementaires joueront à ce petit jeu-là.
Aux États-Unis, vous voyez bien qu'aux États-Unis,
il faut les déclarer.
Vous devez dire également où sont vos enfants en carrière politique, pas forcément que pour vous. Ça va très loin, parce qu'aux États-Unis, ce serait même pas acceptable en termes de morale politique.
Ce qui est important aussi, c'est que l'interdiction des emplois familiaux a été élargie par les parlementaires dans une sorte de bras de fer entre les législatifs et l'exécutif, parce que derrière cette loi de moralisation, il y a ça, il y a un exécutif au-delà de la moralisation pour la moralisation, d'encadrer quand même ce Parlement et ce pouvoir législatif.
Bref,
l'interdiction est élargie également d'emplois familiaux aux ministres. Mais encore une fois, pour compléter ce que vous disiez, cette loi reste quand même limitée en deçà du manche sur énormément de points.
On en a parlé cette semaine, notamment sur le casier
mais,
judiciaire.
Mais pas que, les conflits d'intérêts.
Je pense que nous y reviendrons demain dans les informés, puisque la loi sera débattue encore une dernière journée, je crois.
Théoriquement, demain à l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup à tous les quatre, Gianni Calimi, Pascal Blanchard, Mathieu Delahousse et Jérôme Doncieux, d'avoir participé aux informés de France Info. Bonne soirée. On se retrouve demain pour les informés. Dans un instant, les infos. D'abord, la météo.